Eh bien, bonjour ou rebonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue à vous qui nous visitez ce matin. C'est toujours une joie, en tout cas pour moi, de se retrouver ici chaque dimanche matin. Une peine quand certains d'entre nous ne peuvent être là pour des raisons de santé ou de grand âge. Et puis, c'est toujours une joie de se revoir, de se retrouver et ensemble de louer Dieu et aussi de méditer sa parole. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, cette Bible qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître à Timothée, d'ailleurs dimanche dernier, je crois que Pierre-Yves nous avait relevé quelques versets de la Bible, qui sont tous au chapitre 3 et au verset 16. Jean 3,16, etc. 1 Jean 3,16, il y avait aussi Colossiens 3,16. Eh bien, 2 Timothée 3,16 nous dit que l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour notre perfectionnement spirituel, pour nous reprendre, pour nous enseigner, pour nous encourager. Eh bien, c'est cette parole de Dieu que je vous invite à ouvrir maintenant dans le livre des Chroniques, au chapitre 10, et nous poursuivons un peu, ou en tout cas je poursuis, quelques méditations sur ces rois de Juda. Alors je vais peut-être vous expliquer de quoi il s'agit exactement, à vous qui ne connaissez peut-être pas bien l'Ancien Testament. Il y a eu peut-être 1000 ans, grosso modo, 900 ans avant Jésus-Christ, deux rois très importants, le roi David et son fils, le roi Salomon. Mais à la mort du roi Salomon, le pays d'Israël sur lequel régnaient David et Salomon a été divisé en deux, séparé en deux. Il y a eu, à partir de ce moment-là, le royaume du Nord avec une dizaine de tribus et le royaume du Sud, capitale Jérusalem, avec 2 tribus. Et le livre des Chroniques, du chapitre 10, à la fin de ce livre des Chroniques, relate l'histoire de ces rois de Juda, de ce petit pays de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Et nous avons déjà médité ces dernières semaines, ces derniers mois, sur 2 rois de Juda. Le roi Asa, qui resta fidèle au Seigneur pendant 36 ans de son règne et qui, pendant les 6 dernières années de sa vie ou de son règne, abandonna le Seigneur ou s'opposa à l'Éternel. Et nous sommes posé la question, je ne vais pas reprendre cette prédication, maintenant vous pouvez la retrouver sur Internet. Comment s'est-il fait que ce roi fidèle pendant si longtemps a abandonné ainsi le Seigneur à la fin de sa vie? Puis nous avons aussi médité sur le roi Amatsia, l'homme au cœur partagé, ou comme j'avais dit peut-être un peu trivialement, l'homme assis entre 2 chaises. Quand on est assis entre 2 chaises, d'une part on est mal à l'aise, et d'autre part on ne sait pas trop sur quelle chaise on doit s'asseoir. Amatsia s'éloigna aussi de Dieu, lui qui avait le cœur partagé, et il finit sa vie lamentablement. Et au chapitre 10, c'est le premier de ces rois de Juda, après donc la mort de Salomon, donc le fils de Salomon qui s'appelle Roboam, et à ne pas confondre avec Jéroboam. Il y a Roboam et Jéroboam, ça, c'est un petit peu compliqué, hein. Jéroboam deviendra, ou il est, le roi d'Israël, de ses 10 tribus du Nord. Hein. Et le règne de Roboam se déroule du chapitre 10 au chapitre 12 de ce deuxième livre des Chroniques. Alors nous sommes donc à la mort du roi Salomon. Et le chapitre 9 de ce deuxième livre des Chroniques, au chapitre 9 et au verset 22, nous dit que c'était le plus grand de tous les rois de la terre. C'est son fils Roboam qui monte sur le trône, et il prend une décision catastrophique pour le pays d'Israël. Et nous allons lire ce texte, donc au chapitre 10 du deuxième livre des Chroniques, et nous lirons du verset 1 au verset 15. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'apprit, il était en Égypte, où il avait pris la fuite devant le roi Salomon. Et Jéroboam revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël arrivèrent et parlèrent ainsi à Roboam. « Ton père a rendu notre joug bien dur. Maintenant allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Il leur dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le peuple s'en alla. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils lui adressèrent la parole en ces termes, « Si tu es bon envers ce peuple, si tu le reçois favorablement, si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens et prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que ton père a mis sur nous. » Ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui, lui adressèrent la parole en disant, « Tu parleras ainsi au peuple qui t'a rendu, qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous. » Tu leur diras ceci, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a imposé un joug pesant, et moi, j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi, je vous corrigerai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam ne tint pas compte du conseil des anciens. Il leur parla ainsi, « D'après le conseil des jeunes gens, je rendrai votre joug pesant. C'est moi qui l'alourdirai. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta pas le peuple, car la tournure des événements venait de Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Ahia de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Voilà donc cette lecture. Au lieu d'écouter le conseil des anciens qui lui recommandaient d'alléger les impôts, quand il y a un changement de roi, comme quand il y a un changement de président de la République, on espère toujours qu'il y aura des jours meilleurs. Le roi Roboam s'attira la colère d'une grande partie de son peuple parce qu'il a plutôt écouté ses amis et son fils, d'ailleurs, de Roboam, Abia, dit au chapitre 13 que ses amis étaient des vauriens. Et c'est une véritable révolte qui fait que le pays fait sécession et la grande partie du pays d'Israël va suivre Jéroboam et va quitter Roboam. Et lorsque Roboam envoie son percepteur pour récolter les impôts dans le pays du Nord, celui-ci est lapidé. Et Roboam, d'ailleurs, qui était sans doute dans les environs, a dû s'échapper et rentrer vite à Jérusalem pour ne pas subir le même sort. Conséquence, le royaume d'Israël fut séparé en deux, on appelle cela le schisme. 10 tribus au nord, 2 tribus au sud. Il est piquant de remarquer que le prénom Roboam, en hébreu Réhabéam, veut dire « le peuple s'est agrandi ». Quelle ironie ! Le peuple ne s'est pas agrandi, il s'est divisé, il a été séparé. Ceci m'amène à 3 remarques. Si l'histoire est faite par les hommes, ou des événements qui influent sur les peuples, comme les guerres, les révolutions, des crises économiques, Dieu reste non seulement le maître de l'histoire, il est celui qui la dirige. Cette scission, cette séparation, ce schisme s'explique par le manque de sagesse, la stupidité de ce roi Roboam. Mais, vous l'avez constaté, la fin du texte que j'ai lu nous donne une autre raison, bien plus importante. Ainsi, au verset 15, je relis, « Le roi n'écouta pas le peuple, car la tournure des événements venait de Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Aïa de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. » Il y a une autre explication que nous donne le texte, un autre regard sur ces événements aux circonstances dramatiques. En effet, le prophète de Dieu, Aïa, avait auparavant, du temps de Salomon, intercepté Jéroboam, qui était un des serviteurs de Salomon. Il était celui qui supervisait les corvées dans une tribu. Et ce prophète lui avait dit que Dieu allait lui donner 10 tribus à cause du péché du peuple d'Israël, de son idolâtrie et du péché de Salomon qui, à la fin de sa vie, avait abandonné le Seigneur. Dieu l'avait aussi dit à Salomon. 1 Roi, chapitre 11, verset 11. Puisque tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions, dit Dieu à Salomon, que je t'avais ordonné, je vais déchirer certainement, mais certainement ne veut pas dire là peut-être, ça veut dire certainement, le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Ainsi, l'abandon de Dieu par Salomon et par le peuple, est la cause de la déchirure du pays d'Israël en deux. Et il y a là comme un paradoxe qu'on peut retrouver dans d'autres situations et même dans celle de notre vie ou dans d'autres vies. C'est Dieu qui prend la décision de déchirer le royaume d'Israël, mais Roboam est seul responsable de ses actes. Il ne pouvait pas dire « je ne pouvais pas faire autrement parce que Dieu l'avait décidé ». C'est lui qui, par sa stupidité, par ses mauvais conseillers, provoque ce schisme. Mais cela provenait de Dieu. On pourrait, par exemple, dire aussi la même chose, mais ce n'est qu'un exemple de Judas qui porte la responsabilité de ses actes, mais dont l'enchaînement des circonstances ont été conduits à Dieu pour que Jésus soit crucifié, mais la responsabilité de la crucifixion incombe à ceux qui en ont pris la décision ou qui en ont été les acteurs. Dieu s'intéresse à notre humanité comme à notre vie, il agit, il intervient dans la vie de son peuple et de ses enfants. Le peuple d'Israël avait reçu la révélation du seul vrai Dieu. Les autres peuples adoraient des divinités qui n'étaient que néant. Et Roboam aurait dû se souvenir de la loi donnée à son peuple et s'en inspirer. Et il ne l'a pas fait. Si vous continuez l'histoire de ces rois dans le deuxième livre des Chroniques, vers la fin, vous rencontrez le roi Josias. Et le roi Josias, un beau jour, fait un petit peu de ménage. Ça arrive parfois de faire du ménage chez soi, du dépoussiérage. Alors il décide de faire le ménage dans le temple. Ça peut paraître incroyable, dans le temple de Jérusalem. Et voilà que des prêtres découvrent un livre ou des livres, la parole de Dieu, la loi de Moïse, la loi de Dieu. Et ils lui disent, tiens, regarde, on a retrouvé cela, c'est la loi de Dieu. Et ils commencent à lire ce livre de la loi, probablement le livre du Deutéronome, peut-être entre autres. Et le roi Josias, il nous a dit qu'il a déchiré ses vêtements, signe de tristesse, de profonde réaction, parce qu'il s'est rendu compte combien il était coupable devant Dieu de ne pas avoir mis en pratique cette loi de Dieu. C'est incroyable, c'est étonnant que ces rois à Jérusalem, d'Israël, qui avaient le temple, qui avaient les sacrificateurs, ignoraient même que la loi de Dieu existait. Oui, Roboam a agi sans tenir compte de Dieu, et en plus, il a agi comme un insensé. Et il semble bien que depuis l'époque, on pourrait dire, de la vieillesse de Salomon, jusqu'à Josias, on avait oublié de lire la loi de Dieu. Et ce n'est que sous le roi Josias que l'on retrouve ce livre de la loi. Et cette loi remplit le roi d'effroi, parce qu'il ne l'avait pas mise en pratique. Dieu agit dans l'histoire. Deuxièmement, Dieu parle. Dieu s'adresse à son peuple par les prophètes qui sont ses porte-paroles. Et à plusieurs reprises, Dieu envoie son porte-parole. Et Dieu n'agit pas sans prévenir, sans dicter ses ordres. Salomon avait été averti. Jéroboam a été averti. Roboam aurait dû l'être aussi. Et Dieu n'est pas insensible à ceux qui, même si c'est tard ou trop tard, se repentent et écoutent la parole de Dieu. Et Dieu use de patience. La parole de Dieu nous dit qu'il est lent à la colère. Il attend que le cœur de ceux qu'il appelle le suive et se trouve dans de meilleures dispositions. Au début du règne du grand roi Salomon, on trouve cette phrase, 1 Roi 3:3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Ce n'est pas une obéissance comme on obéit à un code de la route ou à une loi parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il aimait l'Éternel, mais à la fin de sa vie, il a plutôt aimé des divinités étrangères. Et Roboam n'avait pas cet amour pour Dieu. Et il n'est pas étonnant que quelques années plus tard, on ait ce constat, chapitre 12, verset 1, lorsque la royauté de Roboam se fut consolidée et que lui-même se fut affermi, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Roboam va compter sur ses propres forces au lieu de compter sur le Seigneur. Lorsque le pays est divisé en deux, il va essayer de reconquérir le pays du Nord. Mais là, un prophète de Dieu va intervenir en lui disant « Ne combats pas tes frères » et il va obéir. Et c'est en ce sens qu'il a suivi la voix du prophète, mais par la suite, il va compter sur ses propres forces uniquement. Alors il va consolider ses villes. Il va se protéger derrière les murailles des villes de Juda. Il les fait fortifier. Et au chapitre 11, on peut lire du verset 5 au verset 12, donc 2 Chroniques, chapitre 11, « Roboam habita à Jérusalem et bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem et Étam, Tekoa, Betsour, Soko, etc., etc. Et au verset 11, il répara les fortifications, y établit des commandants et des réserves de nourriture, d'huile et de vin. Il y avait dans chaque ville de grands boucliers et des lances, il les rendit très fortes. Alors ils se protègent et on assiste à un véritable plan Maginot qui aurait dû empêcher l'ennemi de percer ses frontières. Mais ils ne savaient peut-être pas ce que deviennent les lignes Maginot. Alors de nouveau, un prophète, Shemaïa, se présente devant le roi et prononce la parole de Dieu, chapitre 12, verset 5, « Vous m'avez abandonné, je vous abandonne, moi aussi, entre les mains de Shishak. » Alors ne pas confondre avec Chirac, hein, ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir. Shishak, c'était le roi d'Égypte, un grand pays l'Égypte à cette époque. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne, moi aussi. Dieu, le peuple s'humilie. Dieu entend l'humiliation du roi, mais il n'empêche pas Shishak d'entrer dans Jérusalem et de prendre les trésors du temple et de la maison du roi. Ce trésor que Salomon avait accumulé. Et il restait encore les boucliers d'or du roi Salomon que Shishak emporta. Et le texte est laconique. Il dit, chapitre 12, verset 9, que Shishak prit tout ce qui se trouvait dans la maison du roi et dans le temple de Jérusalem, et en particulier les boucliers d'or. Toute la richesse du roi Salomon est dilapidée à cause de la désobéissance de Salomon et de son fils Roboam. Et l'auteur du livre des Chroniques résume en une petite phrase la vie de Roboam, chapitre 12, verset 14. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Et faire le mal, dans ce sens-là, c'est essentiellement ne pas tenir compte de Dieu dans la vie de tous les jours, dans les décisions à prendre tous les jours. C'est exclure Dieu de sa vie ou des décisions. Alors, je conclus. Et dans la conclusion, c'est essentiellement un enseignement que j'aimerais que nous retenions à partir de la vie de Roboam. Premièrement, sur quel fondement construisons-nous notre vie ? Sur celui de la parole de Dieu ou sur celui de nos propres raisonnements ? Quel conseil suivons-nous ? Celui des anciens ? Et vous savez que le mot ancien a deux sens. Il veut dire personne âgée, mais il veut dire aussi responsable dans l'Église. Ou celui de nos amis pour qui Dieu ne compte pas et dont ils ne tiennent aucun compte de Dieu. L'apôtre Paul a pu dire aux responsables, aux anciens de l'église d'Éphèse, acte chapitre 20, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Sachons écouter le conseil de Dieu. Il passe par la lecture de la Bible, la parole de Dieu, par la prière, par ce face à face avec Dieu, je dirais même quotidien. Car si la Bible est la parole de Dieu, elle doit être notre nourriture spirituelle. Et ce conseil de Dieu passe aussi par des frères et des sœurs en la foi, dont nous reconnaissons la sagesse. Roboam n'a pas suivi ce conseil, et sa décision a malheureusement provoqué un schisme en Israël. Et qui sait si Dieu ne serait pas revenu sur sa décision si Roboam s'était repenti, avait agi autrement. Il y a bien des exemples dans l'Écriture où Dieu revient sur sa décision parce que les hommes se repentent. Le cas de Ninive, par exemple, avec le prophète Jonas, est un exemple type. Deuxièmement, sachons nous humilier, nous repentir. C'est une attitude que Dieu aime parce qu'elle est contraire à notre orgueil ou à notre indépendance. Chacun peut se tromper, chacun peut commettre des erreurs, mais il est bon de ne pas s'obstiner, de ne pas persévérer dans une voie qui n'honore pas le Seigneur. Et avec Dieu, je dirais que ce n'est jamais trop tard. Avec Dieu, on peut toujours revenir au Seigneur et remettre sa vie en ordre sur les rails de la parole de Dieu. Dieu prend en compte notre repentance, comme il l'a fait à une reprise pour Roboam et le peuple de Juda, chapitre 12, verset 12. Troisièmement, je dirais que Dieu parle. Dieu avertit par les prophètes, par ses serviteurs et ses servantes. Et encore aujourd'hui, sa parole est entendue. Il parle à nos cœurs par le Saint-Esprit. Appliquons-nous à écouter le Seigneur. Quatrièmement, méfions-nous de nos réussites, de notre blindage. Roboam se croyait en sécurité derrière la fortification de ses villes. En réalité, Shishak n'en a fait qu'une bouchée. Le texte nous dit, chapitre 12, verset 1er, qu'il avait consolidé son royaume. Lorsque la royauté de Roboam se fut consolidée et que lui-même se fut affermi, il abandonna la loi de l'Éternel. Parfois, nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes, que notre réussite, que notre société, avec toutes les assurances possibles et inimaginables, que notre médecine, que notre paix, que tout cela nous suffit. Et nous donnons l'impression, ou nous croyons que nous pouvons nous passer du Seigneur. Ne comptons pas sur nos villes fortes, mais comptons sur le Seigneur lui-même. Nos ennemis ou notre ennemi veulent nous ravir nos biens les plus précieux, à savoir notre vie avec Dieu, notre service pour le Seigneur. Et lorsque Roboam eut livré au roi d'Égypte les boucliers d'or que son père Salomon avait fabriqués, il les remplaça par des boucliers de bronze. Et tous les jours, lorsqu'il se rendait peut-être de l'Élysée à je ne sais trop où, à Matignon ou quelque chose de semblable à cette époque, les coureurs couraient devant avec les boucliers de bronze à la main. Alors cela brillait peut-être de la même façon, cela ressemblait, c'est comme le Canada Dry, à des boucliers d'or, mais ce n'était pas des boucliers d'or. Rien n'avait changé dans la forme, mais le fond n'était plus le même. Ne donnons pas l'illusion d'être chrétiens. Soyons-le vraiment dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre de Job, chapitre 22, verset 24. « Jette l'or ou jette ton or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. » Cela ressemble un petit peu à cette parole de Jésus qui dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la donnera au Seigneur la gagnera, effectivement. Le Tout-Puissant sera ton or. C'est le Seigneur qui est notre richesse, notre seule richesse, et en particulier dans nos épreuves. Et puis, dernier point, Dieu dirige le cours de l'histoire. Si malgré les péchés de Salomon et de tous les rois qui l'ont suivi, Dieu a maintenu un de ses descendants de David sur le trône de Jérusalem, c'est parce que Dieu avait un plan de salut pour l'humanité pécheresse. Et ce plan, c'était Jésus-Christ, descendant du roi David, pour le salut de tous ceux qui mettraient leur foi, leur confiance en lui. Nous en sommes aujourd'hui les heureux bénéficiaires. Il n'y a pas de plus grand trésor que celui-là. Et l'Épître aux Hébreux, qui s'adresse essentiellement aux chrétiens d'origine juive, dit ceci, « Ne négligeons pas un si grand salut. » Et bien que cette vie ou ce contre-exemple de Roboam nous encourage à mettre notre vie en ordre avec le Seigneur et à nous attacher à lui tout particulièrement. Amen.